L'heure de retrouver Antoine Maretz pour le journal. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Un premier ministre israélien en Arabie Saoudite. L'événement a été révélé ce matin par la presse israélienne malgré sa discrétion. Nous tenterons de comprendre pourquoi Benjamin Netanyahou est allé rencontrer Mohamed Ben Salman.
Et dans votre journal également, Carrefour boycotté au Brésil suite au tabassage d'un homme noir par deux de ses vigiles. Depuis, des manifestations parfois violentes ont eu lieu dans le pays.
Danone va supprimer jusqu'à 2000 postes. Le géant agroalimentaire malmené par le Covid-19 l'a annoncé ce matin en France. Ce seront jusqu'à 500 postes qui seront supprimés.
Invité de ce journal, le porte-parole du Rassemblement national, Sébastien Chenu. Nous évoquerons la proposition de loi sécurité globale, la crise sanitaire ainsi que les régionales.
Et puis nous terminerons le journal par un focus sur ce numéro d'écoute mis en place en France pour lutter contre la pédophilie. Sa particularité, il s'adresse aux pédophiles eux-mêmes pour éviter un passage à l'acte. Midi et demi, seconde partie de la grande table avec vous Olivia.
Avec la voix d'un grand philosophe qui nous offre aujourd'hui un regard sur notre époque en repartant de celle qu'il a vue naître le XXe siècle. La grande traversée de Régis Debré, ce sera dans une vingtaine de minutes dans la grande table des idées.
A tout à l'heure. La visite ne sera pas restée secrète très longtemps. Ce matin, plusieurs médias israéliens ont fait part d'un déplacement hier de Benjamin Netanyahou en Arabie Saoudite. Le premier ministre israélien est allé y rencontrer le prince héritier Mohamed Ben Salman. Il était accompagné du chef du Mossad. Pour l'heure, aucun commentaire officiel, ni du côté israélien, ni du côté saoudien. Et pourtant, c'est une visite historique, la première connue d'un premier ministre israélien en Arabie Saoudite. Bonjour Frédéric Mettezo.
Bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondant à Jérusalem. Pour commencer, comment la presse israélienne a eu vent de cette visite qui se voulait très discrète ?
Alors d'abord, tôt ce matin, Antoine, plusieurs sites spécialisés de suivi des avions avaient noté ce vol direct entre Israël et l'Arabie Saoudite hier de Tel Aviv à Neom, un jet survolant la mer Rouge qui a passé 5 heures sur place. L'information a ensuite été révélée par les journalistes israéliens les plus réputés sur ces dossiers, Benjamin Netanyahou et le directeur du Mossad Yossi Cohen, son diplomate de l'ombre, ont rencontré le prince héritier MBS et le secrétaire d'État américain Pompeo. Netanyahou n'avait pas prévenu ses ministres centristes de la défense et des affaires étrangères qui sont aussi ses rivaux politiques au sein de sa coalition.
Alors quel sens donner à cette visite, Frédéric ?
Ces relations non officielles entre Israéliens et Saoudiens, elles sont anciennes. Elles datent de la conférence de paix de Madrid en 1991. Elles n'ont jamais été démenties et elles se sont renforcées car Israël et l'Arabie Saoudite ont un ennemi commun, l'Iran chiite, qui cherche à se doter de l'arme nucléaire. Mais les deux pays vont bientôt perdre leur meilleur allié contre Téhéran en la personne de Donald Trump. La rencontre d'hier est donc d'abord un message à Joe Biden. Netanyahou et MBS ne veulent pas d'un retour à l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, ce sont des partisans de la manière forte. Reste, Antoine, la question de la normalisation entre les deux pays après que les Émirats, Bahreïn et le Soudan ont reconnu Israël. C'est difficile à envisager tant que MBS n'est pas devenu roi. Hier, au G20, le ministre des Affaires étrangères saoudien a déclaré qu'il soutenait la normalisation avec Israël, mais que cela passait d'abord par le règlement du conflit israélo-palestinien.
Merci à vous, Frédéric Mettezo. Joshua Wong, l'une des figures les plus connues de la contestation à Hong Kong, et deux autres militants de premier plan ont été passés aujourd'hui en détention provisoire après avoir plaidé coupable pour leur rôle dans les manifestations l'année dernière. L'ex-colonie britannique a connu l'an passé sa crise politique la plus grave depuis sa rétrocession à Pékin en 97, avec des manifestations quasi quotidiennes pour dénoncer l'influence de la Chine sur cette région semi-autonome. Sur place, le récit de Florence de Changy.
Le plaidé coupable des trois jeunes militants pro-démocratie, placés en détention provisoire lundi matin, est avant tout symbolique, une manière de dire pour chacun d'eux « j'assume ce que j'ai fait ». C'est une posture politique qui est cohérente avec les idéaux de désobéissance civile du mouvement démocratique d'opposition au gouvernement local et à Pékin. Il y a aussi un intérêt stratégique à plaider coupable, tout simplement parce que cela donne droit d'entrée de jeu à une diminution de peine. Autre aspect à souligner dans le contexte actuel, être condamné par les tribunaux de Hong Kong sous la loi de Hong Kong, ce qui est le cas pour Joshua Wong et ses deux camarades. C'est la garantie d'une justice plus juste par rapport au risque d'être condamné sous la nouvelle loi de sécurité nationale imposée par la Chine, avec laquelle les peines peuvent aller jusqu'à la perpétuité et le jugement risque d'être beaucoup plus aléatoire. Cela dit, Joshua Wong a tout de même plaidé non coupable à une des accusations, celle d'avoir consciemment participé à un rassemblement illégal, et les procureurs n'ont en effet pas été capables d'apporter la preuve que Joshua Wong avait été présent sur place le 21 juin 2019. Le verdict est attendu le 2 décembre.
Au Brésil, un homme noir a été tabassé à mort jeudi dernier par deux vigiles d'un supermarché Carrefour à Porto Alegre dans le sud du pays. La violence de l'agonie de la victime, filmée pendant 4 minutes, a profondément choqué le pays. Depuis, des manifestations parfois violentes ont eu lieu, en plus d'un boycott contre le groupe français qui possède près de 700 supermarchés dans le pays. À Rio, la correspondance d'Anne Vigna.
Les mots de Carrefour assassin résonnent au Brésil depuis jeudi dernier et la mort de João Alberto Silveira Freitas, tué par deux vigiles du groupe français à Porto Alegre. Hier, des manifestations ont eu lieu un peu partout dans le pays, le plus souvent devant les enseignes de Carrefour, comme à Rio de Janeiro, où la direction du supermarché avait préféré fermer ses portes.
Toutes les 23 minutes, un jeune noir est assassiné au Brésil. Les assassinats de femmes noires ont augmenté au Brésil, alors que ceux des femmes blanches ont diminué. La balle de la police choisit sa cible. Le vigile de Carrefour choisit sa cible. Les vies des noirs comptent.
Le mouvement de protestation a pris une ampleur qui surprend les observateurs. Carrefour a déjà été condamné pour des violences à caractère raciste au Brésil en 2009 et en 2018 contre des clients noirs. À chaque fois, ces vigiles sont en cause. Comme dans ce drame, il s'agit de policiers qui font des heures supplémentaires. Ils n'avaient reçu aucune formation de la part de Carrefour.
Reportage signé Anne Vigna. Midi passé de 37 minutes sur France Culture. Dans l'actualité française, Danone va supprimer jusqu'à 2000 postes. Le géant agroalimentaire malmené par le Covid-19 l'a annoncé ce matin. Objectif, simplifier son organisation, renouer avec la croissance et augmenter sa rentabilité. Bonjour Anne-Laure Jumet.
Bonjour.
En France, ce seront jusqu'à 500 postes qui vont être supprimés.
Oui, entre 400 et 500 postes, essentiellement des postes de directeur, de manager et de cadre, vient d'expliquer le PDG du groupe Emmanuel Faber lors d'une visioconférence. Des salariés qui travaillent au siège de Danone à Paris et dont les fonctions ne sont plus jugées en phase avec la nouvelle orientation prise par le groupe. Une orientation résumée par un slogan « Local first », priorité au local. Il y a eu trop de centralisation et on n'a plus besoin d'autant d'échelons hiérarchiques, explique une source proche du dossier. Alors il est trop tôt pour parler de plan social, assure Emmanuel Faber. Il pourrait y avoir des mesures d'âge, des mobilités internes. Les négociations vont s'engager avec les syndicats dans les mois qui viennent. Des suppressions de postes qui vont en tout cas contribuer à ce plan d'un milliard d'euros d'économies en 2023, annoncé également ce matin par Danone. Des économies qui passent par une digitalisation des usines et l'usage de l'intelligence artificielle. Les salariés dont les tâches seront automatisées bénéficieront d'un plan de mobilité et de formation, assure Danone. Le groupe est impacté par la crise que l'on connaît. Il a vu ses ventes d'eau en bouteille baisser de 25% du fait de la fermeture des bars et restaurants. Mais au-delà, le groupe constate sous-performer par rapport à ses concurrents. Il y a sans doute trop de marques dans notre portefeuille, explique son PDG. Cela va être revu. Le milliard d'économies dégagées doit être réinvesti en partie pour retrouver le chemin de la croissance. Danone escompte ainsi un retour à une croissance rentable, dit-il, au deuxième semestre 2021.
Merci à vous, Anne-Laure Jumet. Près d'un mois après la dissolution de Baraka City, ONG jugée proche de l'islamisme radical par le gouvernement, le Conseil d'État examine la requête en référé de ses avocats qui dénoncent une mesure injustifiée. Ce matin, les membres de l'autorité administrative ont cherché à savoir si, sous couvert d'une action humanitaire, le président de Baraka City ne se sert pas de son ONG pour distiller des propos à caractère haineux, antisémite et antichrétien. Cécilia Arbonnat.
Présent à l'audience, à la droite de ses deux avocats, Idriss Siamedi, longue barbe fournie sous son masque chirurgical, le reconnaît lui-même. « Je change régulièrement d'avatar sur Internet et je ne fais pas toujours un 20 sur 20 sur Twitter ou Facebook. » L'homme de 36 ans parle donc de maladresse dans certains de ses messages postés. Mais pour la représentante du ministère de l'Intérieur, Pascal Léglise, le président de Baraka City profite de sa notoriété pour faire passer des messages insidieux qui déclenchent des commentaires à caractère haineux. Elle en lit quelques-uns devant nous. Les juifs sont des rats à abattre. Et elle rappelle, par exemple, que lors d'une perquisition à son domicile, on a découvert des éléments troublants dans son ordinateur, une vidéo de chants religieux exaltés de combattants du djihad, ou encore une revue dans laquelle les auteurs des attentats de janvier 2015 en France étaient qualifiés de héros. Alors ce matin, Idriss Siamedi, visiblement, est plus modéré à l'oral qu'à l'écrit.
Bien évidemment, c'est des choses qui sont complètement condamnables. Je l'ai dit depuis le début, et je l'ai écrit déjà dès 2018, dès 2019. Lorsque notamment j'ai apporté mon soutien à l'imam de Brest qui était ciblé et menacé par le groupe État islamique. Donc j'ai pas attendu d'être devant le Conseil d'État pour pouvoir faire ce type de déclaration.
Ces deux avocats rappellent que leur client n'a jamais été condamné et qu'une enquête pour financement du terrorisme qui visait l'association Baraka City a été classée sans suite en 2019.
Et le Conseil d'État rendra sa décision mercredi matin. Au procès des attentats de janvier 2015, les avocats réclament une nouvelle suspension du procès. Le principal accusé n'est toujours pas en état de comparaître et tous refusent la possibilité d'avoir recours à la visioconférence, possibilité introduite la semaine dernière par une ordonnance signée par le garde des Sceaux. Face à la controverse, le président de la Cour a choisi d'ouvrir les débats sur cette possibilité de reprise du procès. Les parties civiles, les avocats de la défense et l'accusation se sont donc exprimés ce matin, Florence Turm.
C'est un débat très vif et passionné qui s'est engagé ce matin devant la Cour d'assises spéciale de Paris dans la droite ligne de l'indignation qui monte chez les avocats depuis vendredi, depuis que le président a indiqué qu'il envisageait de reprendre le procès suspendu en l'absence du principal accusé, Ali Riza Polat, diagnostiqué positif au Covid-19 il y a une vingtaine de jours et qui souffre toujours de vomissements. Mais un débat de fond également autour de cette ordonnance du 18 novembre dernier que beaucoup estiment avoir été prise sur mesure par le garde des Sceaux. Téléguidé même par le parquet national antiterroriste. Certains l'ont clairement laissé entendre ce matin et le ministère public aussitôt démenti. L'accusé va pouvoir assister à l'audience par visioconférence. Nous sommes dans une phase où les accusés n'ont plus la parole et ils peuvent seulement écouter, expose l'avocat général, bien seul face à la position commune adoptée par les avocats de la défense et ceux de la partie civile et qui se succèdent, formule choc à l'appui de leur argumentaire. Vous avez envisagé un homme au cachot devant son écran. Lance l'avocate d'Ali Riza Polat, Isabelle Coutempère. Votre procès doit être historique, mais il ne peut s'inscrire dans l'histoire comme le cercueil d'un certain nombre de droits, enchérit Antoine Comte, qui représente plusieurs victimes. Un procès regardé dans le monde entier, qui peut comprendre, interroge son confrère Richard Malka pour Charlie Hebdo, et je me refuse à faire de Monsieur Polat une victime, ajoute-t-il. En défense, Maître Safia Akori annonce enfin qu'elle refusera de plaider si le procès devait reprendre dans ces conditions. Tous réclament une nouvelle suspension pour une semaine encore, d'autant que le Conseil d'État est également saisi d'un référé liberté sur cette ordonnance de la discorde. Il l'examinera demain après-midi.
Merci également Florence. Merci Florence Turm et merci également à Raymond Albuy à la technique. Et la Cour rendra sa décision tout à l'heure à 14h30. Un ex-chef de l'État jugé pour corruption, Nicolas Sarkozy, comparé à partir de cet après-midi dans l'affaire des écoutes aux côtés de son avocat Thierry Herzog et de l'ex-haut magistrat Gilbert Azibert dans un procès sans précédent sous la Ve République. Avant lui, un seul ancien président, Jacques Chirac, a été jugé et condamné en 2011 pour les emplois fictifs de la ville de Paris. Mais il n'a jamais comparu devant ses juges en raison de son état de santé. Dénonçant un scandale qui restera dans les annales, je cite, Nicolas Sarkozy promet d'être combatif devant le tribunal correctionnel de Paris et clame ne pas être un pourri. Le procès reste toutefois soumis aux aléas de l'épidémie de Covid-19 et pourrait être renvoyé à la demande de Gilbert Azibert pour raison médicale. Le sujet est ultra sensible. Le ministère de l'Éducation nationale dévoile aujourd'hui un début de réforme de l'éducation prioritaire. La secrétaire d'État chargée de ce secteur, Nathalie Elimas, annonce ce matin le lancement d'une expérimentation à partir de la rentrée 2021 dans 3 académies, Lille, Nantes et Marseille, pour corriger les imperfections de la carte actuelle des établissements REP et REP+, ceux qui ont plus de moyens car situés dans des quartiers défavorisés, Hakim Kasmi.
Mieux répondre au contexte local pour apporter une aide plus importante dans certains établissements en périphérie des villes ou en zone rurale ou encore dans certains lycées professionnels. Tel est l'objectif du ministère de l'Éducation. En effet, lors de la dernière réforme des zones d'éducation prioritaire, de nombreux établissements étaient sortis du dispositif alors qu'ils bénéficiaient pourtant de critères objectifs pour y rester. Actuellement, il faut forcément qu'une école primaire soit en zone d'éducation prioritaire pour être, elle aussi restée avec un collège. Résultat, aujourd'hui, il y a un trou dans la raquette. C'est ce trou que veut corriger le ministère. Alors, même si pour l'instant, il indique qu'il continuera de tenir compte de certains critères nationaux, comme par exemple le nombre de boursiers, il voudrait avoir une carte plus précise à l'instant T. En effet, lorsqu'il y a un plan massif de licenciement, par exemple, dans une région, cela peut avoir des conséquences sur les familles et du coup aussi sur les élèves. Mais ce matin, les syndicats et les enseignants dénoncent la manière dont le ministère veut le mettre en place, puisque désormais, les chefs d'établissement devront répondre à un appel à projet. Une vision libérale, selon les syndicats, qui pourrait défavoriser certains établissements. Quant à la question des moyens, là aussi, le ministère ne dit pas s'ils seront plus ou moins importants par rapport à ce qui existe actuellement. Le ministère qui précise que pour l'instant, il ne s'agit d'une phase expérimentale et que ce n'est qu'à la fin de l'année 2021 qu'il tranchera pour dire ou pas si le dispositif sera élargi à l'ensemble du territoire.
Merci à vous, Hakim Kasmi. Ils se sentent comme les premières victimes de la crise économique due au Covid-19. Les quartiers défavorisés où la précarité a explosé depuis ce printemps. Premiers touchés, ils ne veulent pas être les derniers à profiter du gigantesque plan de relance. Plaidoyer de 9 maires ce matin. Ils se sont entretenus par visioconférence avec le Premier ministre Jean Castex, la ministre de la Cohésion des Territoires Jacqueline Gourault, ou encore la ministre déléguée chargée de la ville, Nadia Hay. Bonjour Thomas Giraudot.
Bonjour Antoine.
Ces maires ont-ils obtenu ce qu'ils demandaient?
Alors oui, sur leur principale revendication, le fléchage d'un milliard d'euros, 1% du plan de relance vers les territoires en décrochage. C'était déjà le cas, mais il y avait un manque de clarté, de lisibilité des mesures, de l'aveu même de la ministre déléguée à la ville, Nadia Hay. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, a rappelé par exemple les mesures spécifiques pour l'emploi dans les quartiers défavorisés.
Les 150 000 garanties jeunes, qui est l'accompagnement global professionnel des jeunes, 20% qui bénéficieront aux habitants des quartiers prioritaires de la ville. Et puis également, il y a beaucoup d'attentes sur les emplois aidés. Vous savez qu'on a décidé de doubler le nombre d'emplois aidés dans les quartiers, qui sont notamment destinés aux collectivités et aux associations. On va passer de 12 000 à 24 000 emplois en 2021.
Et du côté des maires, on est relativement satisfait de la réunion de ce matin, mais on attend de voir le concret. Frédéric Le Turc et le maire d'Arras.
On a encore tout à construire sur la méthode. On veut être acteur du plan de relance, mais on a besoin d'avoir en quelque sorte cette traduction pour nos quartiers. Et aujourd'hui, le compte, il sera peut-être demain avec le 1%, mais il n'y est pas totalement.
En revanche, les élus n'ont, semble-t-il, pas obtenu la création d'un Conseil national des solutions pour identifier et promouvoir des solutions de terrain. Il existe déjà un Conseil national des villes qui pourra faire ce travail. Eh bien, les maires vont quand même créer ce Conseil des solutions de leur côté. Il se réunira chaque mois à partir de la mi-décembre.
Merci à vous, Thomas Giraudot. Midi passé de 48 minutes sur France Culture, c'est l'heure de la séquence interview. Invité de ce journal, le porte-parole du Rassemblement National, Sébastien Chenu. Bonjour monsieur.
Bonjour Antoine Maret.
Demain donc c'est le vote solennel de la proposition de loi Sécurité Globale. Vous et votre parti avez fait preuve d'un enthousiasme modéré pendant les débats. Ce n'est pas une grande loi, mais elle permettrait de protéger ceux qui nous protègent. Ce sont vos propres mots, des mots qui reprennent l'expression de Gérald Darmanin. Alors, vote ou pas vote ?
Écoutez, aujourd'hui, je ne vois pas ce qui nous interdirait de voter cette loi. Effectivement, c'est pas une très grande loi, il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'ambition, et c'est pas cette loi qui va ramener la sécurité en France. Il n'y a pas de mesures pénales pour faire baisser la délinquance, donc c'est une petite loi avec quelques mesures pragmatiques, protéger les forces de l'ordre qui se font agresser, organiser ou développer davantage la police municipale, que refuse d'ailleurs par idéologie encore un certain nombre de municipalités. C'est le cas dans ma circonscription, par exemple, mais c'est vrai que ce n'est pas une grande loi. Elle amène quelques possibilités supplémentaires. Donc, a priori, nous sommes partis pour la voter. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, en particulier avec cette loi d'ailleurs.
Pendant les débats, on a beaucoup entendu les députés insoumis, Gérald Darmanin. Le Rassemblement national semblait presque effacé.
Non, pas du tout. J'étais d'ailleurs présent en séance avec mes camarades. Marine Le Pen a pris elle-même la parole plusieurs fois. C'est sûr qu'on entend plus facilement un discours anti-flic de la France insoumise, avec cette idée de suspicion permanente de nos forces de l'ordre, et qu'en général, ça fait beaucoup plus recette médiatiquement que lorsqu'on propose, comme nous l'avons fait, qu'il y ait des polices municipales obligatoires dans les communes de plus de 10 000 habitants, la création d'une école nationale de police municipale, c'est-à-dire lorsqu'on cherche à s'attaquer réellement à la délinquance. Mais le rideau de fumée des attaques de la France insoumise sur les libertés cache effectivement un profond malaise qu'ont ces élus lorsqu'il s'agit de pouvoir protéger les Français. Nous l'avons toujours dit, tout ce qui permet de protéger davantage les Français, eh bien nous le soutiendrons. Alors là, ce sont quelques mesures qui n'ont pas vocation à solutionner l'ensemble des problèmes, mais il faut les voter. Je pense qu'il n'y a pas de souci sur les libertés publiques avec ça.
Autre rendez-vous demain très attendu, le discours d'Emmanuel Macron qui va faire des annonces au sujet de la crise sanitaire. On s'oriente vers un allègement progressif du confinement alors que le pic de cette deuxième vague semble avoir été atteint. Amélioration donc, est-ce que vous saluez du coup les mesures prises par le gouvernement ?
D'abord, on va voir quelles sont ces mesures prises par le gouvernement.
Moi, ce que les mesures passées en tout cas, ouais. Le couvre-feu, le reconfinement.
Ce qu'il faut faire, c'est sortir du grotesque, voyez-vous. Sortir de l'absurde et sortir de la dinguerie dans laquelle ce gouvernement a enfermé les Français. C'est-à-dire pas d'anticipation en ce qui concerne l'aspect sanitaire de cette crise, des aides bureaucratiques, une situation infantilisante pour les Français. Et je vois que cette nouvelle idée des 8 mètres carrés dans les commerces confine à la dinguerie absolue et à une méconnaissance totale des réalités du terrain. Donc moi, ce que j'attends du discours d'Emmanuel Macron, c'est plus de justice. C'est plus de justesse en ce qui concerne la multiplication des tests et les politiques massives de tests et d'isolement, et plus de justice en ce qui concerne la capacité à soutenir, à aider vraiment, plutôt qu'à pénaliser de façon perpétuelle ceux qui portent l'économie, c'est-à-dire les PME et les TPE. Tout pour les PME et les TPE. Les aides actuellement du gouvernement sont ou insuffisantes ou bureaucratiques. Si vous perdez 49% de votre chiffre d'affaires, vous n'avez rien. Si vous perdez 51%, vous pouvez bénéficier d'un certain nombre d'aides. Donc vous voyez bien que c'est pas très cohérent, que c'est pas très pragmatique. Et puis surtout, il faut aller plus loin. Il faut un moratoire sur les frais bancaires, en tous les cas avec les PGE qui vont être bientôt à rembourser. Il faut aller de ce côté-là. Il faut effacer les charges sociales. Il faut se pencher sur des exonérations possibles de TVA. Ce sont des choses concrètes que nous proposons.
Des choses concrètes. Alors, une question concrète. Est-ce qu'il faut rouvrir les restaurants, les bars ?
Oui, je crois que les professionnels savent prendre les bonnes mesures.
Sans contraintes.
Si, des contraintes, bien sûr, avec des contraintes de gestes barrières, avec et en faisant confiance aux professionnels. Arrêtons d'infantiliser. Enfin, cette histoire de 8 mètres carrés dans un commerce, c'est méconnaître totalement la réalité de nos commerces de proximité. Faisons confiance aux professionnels. Ils ont eux-mêmes envie de s'en sortir, ils ont envie que ça marche. Et là, on est en train de les enfermer dans des mesures administratives, bureaucratiques, qui sont grotesques. Comme d'ailleurs, ces histoires d'attestation qui n'ont plus aucun sens pour les Français. Donnons de l'oxygène à nos professionnels, à nos commerces, à nos entrepreneurs, à ceux qui font vivre le commerce de proximité. Rouvrons dès que possible tous nos commerces. Vous savez, c'est pas parce que on ira dans un restaurant qui aura organisé son espace, ses gestes barrières, etc., qu'il y aura une foultitude de personnes devant les restaurants et que la pandémie reprendra. Faisons un peu confiance aux Français, dépistons-les, allons vers une politique de vaccination gratuite la plus large possible, comme le font l'Allemagne d'ailleurs ou la Grande-Bretagne, et puis arrêtons de se soumettre à cette toute-puissance d'un comité scientifique qui n'est pas élu, qui n'est pas contrôlé et derrière lequel ce gouvernement s'est caché depuis le début.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à vous Sébastien Chenu d'avoir accepté cette invitation. Merci également à Julien Girard à la technique. Comment lutter contre le passage à l'acte pédophile ? L'une des pistes appliquées depuis de nombreuses années dans les pays d'Europe du Nord est désormais en vigueur en France, un numéro d'écoute à destination des pédophiles. Il était expérimenté depuis un an dans certaines régions. Il devient donc national. Le principe qui fait débat, c'est d'écouter les pédophiles pour protéger les enfants, Laura Dulieu.
Ce numéro unique a été lancé en novembre 2019. C'était l'une des mesures du plan de lutte contre les violences faites aux enfants, plan dévoilé par le secrétaire d'État en charge de la protection de l'enfance, Adrien Taquet. Depuis, ce sont plus de 1000 appels qui ont été reçus par les centres de ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles, les CRIAV, qui gèrent ce numéro. Le numéro qui est gratuit et confidentiel, il était testé dans 5 régions, Provence-Alpes, Côte d'Azur, Centre-Val de Loire, Occitanie, Auvergne et Aquitaine. Lors du premier confinement, il avait été étendu à l'Île-de-France et au Grand Est face aux inquiétudes, notamment avec la hausse de la consommation d'images pédopornographiques. Concrètement, ce numéro permet d'orienter les pédophiles vers des soins adaptés. Leur prise en charge reste encore taboue en France alors qu'elle permettrait d'éviter beaucoup d'agressions. En 2016, 19 000 personnes ont été condamnées pour viol ou agression sexuelle sur mineurs, un chiffre qui ne prend pas en compte les pédophiles dits abstinents qui ne commettent pas d'agression. C'est à eux que se destine ce numéro avec un objectif clair, éviter le passage à l'acte en proposant une autre solution, demander de l'aide. Le millier d'appels depuis un an représente environ 350 appelants, ce qui signifie que plusieurs appels sont souvent nécessaires pour s'engager dans un parcours de soins. À partir d'aujourd'hui, c'est donc la mise en route technique de cette nationalisation. Le numéro sera officiellement opérationnel partout en France dès la mi-janvier.
Cet après-midi, beau temps et fraîcheur. Le soleil va dominer sur l'ensemble du pays. Quelques filaments nuageux tout de même sur la moitié nord. Il fera 6 degrés seulement à Lyon, 12 à Paris, 15 à Ajaccio. C'est la fin de cette édition préparée avec Nicolas Paumet. Prochain journal à 18h avec Stanislas Vazak.
Contre la Covid-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement. Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque dès que c'est recommandé. Aérons les pièces plusieurs fois par jour. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci était un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Midi passé de 56 minutes sur France Culture, on retrouve la seconde partie de la Grande Table avec vous Olivia.
Et avec mon invité Régis Debray, on est ensemble jusqu'à 13h30. Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, la grande traversée de Régis Debray dans et avec D'un siècle l'autre qui paraît chez Gallimard. Le philosophe raconte ce qu'il nomme le privilège d'une génération, celui d'avoir vu mourir un monde et en être un autre. C'était mieux avant, ce n'est pas ce qu'il dit, c'était autrement. À vol d'oiseau, il refait le voyage et, chemin faisant, cartographie une époque très bousculée, la nôtre, sans surplomb mais en intellectuel de son temps. Lui, l'enfant de la guerre, né en 1940, dans l'ombre de l'occupant, à aujourd'hui 80 ans. En rebobinant le film, il semble avoir vu apparaître un fil qui relie les différents temps forts de sa vie. Il en dégage quelques lignes fortes. « Si toute randonnée a son terminus, précise-t-il, il n'entend pas, on le comprend bien, rester à quai. » Bonjour Régis Debray.
Bonjour.
Merci à vous d'être avec nous. Où l'on apprend que le médiologue que vous êtes, averti, celui qui manie si bien les mots, n'a qu'un grand et vaste regret, ne pas être allé à l'école du cinéma. Aucun discours ne tient devant une belle toile ou un grand film, écrivez-vous, Régis Debray, qui font plus et mieux qu'élucider, ils émeuvent. L'émotion plutôt que la raison.
Chaque jour, j'attache moins de prix à l'intelligence. Vous savez, cette phrase de Proust connue, je la fais entièrement mienne. J'aime bien l'intelligence chez les autres, mais chez moi, je la déteste. Parce qu'en fond... L'intelligence est une couche qu'il faut traverser pour retrouver des émotions, pour retrouver des sensations, pour retrouver des vérités, parce qu'au fond, l'intelligence est souvent le maniement de lieux communs, n'est-ce pas ? Ou en tout cas, une petite voltige avec les idées de l'époque. Donc, effectivement, le cinéma a toujours été pour moi... Enfin, parce que j'appartiens à cette génération des cinéphiles, n'est-ce pas ? Cette génération éduquée par... les westerns américains, éduqués par la cinémathèque et les ciné-clubs. Et puis, il se trouve que j'ai été en Sicile voir le tournage du Gâteau Pardo de Visconti. J'ai toujours une grande passion pour les films de Visconti. Et de façon générale, je suis trop sensible au cinéma, c'est-à-dire que l'alliage de l'image et de la musique me met très vite les larmes aux yeux. Dès qu'il y a un mélodrame, je pleure. Donc j'y vais plus trop au cinéma pour me préserver. Puis en plus, c'est plus le même cinéma. Hein, je veux dire, voilà. Je parle de...
Ah, vous parlez d'Orson Welles, vous parlez de Jacques Demy, hein, pour ces films qui vous tirent l'alarme assez facilement.
Bah, Jacques Demy, c'est indépassable. C'est indépassable, Jacques Demy. Mmh. Ne me parlez pas des Parapluies de Cherbourg, où je vais encore pleurer devant vous. Non, c'est... Oui, comment dirais-je, vous savez, je crois qu'on n'arrive jamais à voir... C'est rare que les hommes ont à la fois un œil et une oreille. Je crois que Lévi-Strauss avait les deux, mais ça, c'est exceptionnel. Moi, j'ai un œil. Et mon oreille, elle est plutôt, comment dirais-je, informe, ou en tout cas, manque d'acuité, n'est-ce pas? En revanche, le visuel. C'est pourquoi j'aime bien Malraux, c'était un visuel, lui aussi.
Donc, si c'était à refaire, vous prendriez une caméra et vous partiriez tourner, filmer ce monde et notre époque, être le témoin de ces grands moments qui se sont passés. Mais c'est ce que vous faites aussi, hein, ici, refaire le film dans ce livre avec vos mots. Et vous l'écrivez, le film d'une pensée, plus qu'un film d'action, peut en recouper bien d'autres. Un franc-tireur qui fait son chemin à travers l'air du temps, ne lui en déplaise, fait un voyage en groupe. Vous vous considérez, aujourd'hui encore, Régis Debray, malgré vos engagements, nombreux comme un franc-tireur ?
Disons un outsider du dedans, ce qui est une façon assez moche de jouer sur les deux tableaux. Quand je dis du dedans, oui, parce que j'appartiens à un milieu, disons, de bourgeois intellectuel, sinon de bobo, je ne peux pas nier que mon cadre de vie est celui d'un Parisien d'aujourd'hui. Mais outsider, parce que je suis pas d'accord avec mon milieu, enfin, je n'ai pas les idées de mes amis, j'ai pas les amis de mes idées, donc je boite un peu, si vous voulez, c'est-à-dire, au fond, je me sens pas trop lié à cette gauche très convenable, centre-gauche, qui est celui de, je dirais, de l'état d'esprit de l'époque, n'est-ce pas? Bon, vous savez, un gaulliste d'extrême-gauche, il n'a de place nulle part. Il est trop à gauche pour la droite, trop à droite pour la gauche, alors on s'habitue à être un peu seul, mais voilà, je ne me plains pas. Oui, non, mais c'est vrai que c'est... Parfois, je me reproche de jouer effectivement sur les deux tableaux, mais vous savez... Quand on est cyclotymique, c'est très utile, parce que on alterne avec un besoin de sociabilité et puis un besoin de solitude, c'est-à-dire d'un côté, allons-y les gars, de l'autre côté, foutez-moi la paix. Donc c'est ce que j'appelle un intellectuel à mi-temps, si vous voulez. Voilà. Donc un temps pour l'enthousiasme et un deuxième temps pour le renoncement. Mais vous savez, je crois que c'est Valéry qui disait « Le monde ne vaut que par ses extrêmes et ne dure que par ses modérés. » Eh bien, je crois que ça vaut aussi pour une vie. Un homme ne vaut que par ses enthousiasmes et ne dure, l'âge venant, que par ses renoncements. Alors... Il m'arrive encore d'avoir des enthousiasmes, mais ils sont très brefs.
Vous dites quand même qu'il vous reste une consolation, c'est d'être resté, vous, du seul côté qui vaille, celui des perdants. Vous vous présentez là, aujourd'hui, comme un outsider du dedans, mais pas seulement. Vous vous présentez aussi comme un homme ancré dans un somewhere, vous n'êtes jamais à court d'un anglicisme, ce qui, venant de vous, est assez drôle, à défaut d'avoir pu faire corps avec l'anywhere prôné par l'action révolutionnaire. C'est